Merci. Effectivement, des acteurs très différents, un univers très différent et pourtant étroitement lié avec ce qu'on a entendu dans la communication précédente. On va retrouver, par exemple, la pensée en silo qu'on essaye d'éviter. On peut garder exactement la même définition qui a été donnée. On est vraiment dans le même cas de figure. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un programme de prévention en santé qui s'appelle Quoi pollue qui ? Quoi pollue qui ? Qui est destiné à des enfants. Des enfants de 9, 11 ans, CM1, CM2 en gros, qui est un programme de prévention contre les effets des pollutions et sur le fonctionnement du corps, et qui se décline en classe, en centre de loisirs, et qui a été fait en co-construction avec les enfants. Et tout le problème, c'est ça. C'est qu'est-ce que c'est la co-construction, qu'est-ce que ça soulève, qui co-construit quoi, que veut dire le co, et qu'est-ce qu'est cette construction qui est donnée. La co-construction sur laquelle on se fonde ici, elle s'inscrit dans des méthodes dites participatives et qui ont pour objectif notamment de favoriser l'appropriation des savoirs et qui placent les individus au centre de la table. Donc c'est aussi des mêmes expressions qu'on va retrouver avec la communication précédente et qui vont favoriser l'autonomisation, la responsabilisation des individus à travers des questions d'empowerment, etc., et où les enjeux citoyens sont également très représentés. Mais en fait, ces questions d'autonomisation, de responsabilisation, etc., elles sont globalement positivement perçues, mais elles soulèvent une forme de paradoxe dans ce processus de co-construction qui essaie de mettre en avant le collectif et qui pourtant sont, elles, des valeurs plutôt individualistes. Et ça rejoint un autre paradoxe qu'on retrouve souvent dans le champ de la prévention en santé, qui est que la prévention, la plupart du temps, on vient cibler les individus dans leur responsabilité sur les risques, alors que majoritairement, les risques sont plutôt collectifs. Donc voilà, c'est vraiment ce paradoxe qui sous-tend cette histoire de co-construction ou de co-conception. Du coup, pour vous parler de ce programme, et pour commencer en fait plutôt par la fin, par son aboutissement, pardon, il se décline sous la forme de mallettes pédagogiques. Là, vous en voyez une avec des thématiques à chaque fois. Et en fait, pour chaque thématique, on aborde un polluant et son effet sur le corps et sur l'environnement. Vous avez par exemple les emballages plastiques et les défenses de l'organisme, les écrans et le cerveau, un autre sur les écrans et les effets de la sédentarité, deux thématiques sur l'alimentation, avec l'une qui traite le système digestif et l'autre le goût, le système neurosensoriel. À ce jour, ce sont les trois que vous voyez en haut qui sont à disposition et qui sont, du coup, elles peuvent être commandées, ces mallettes, par les enseignants ou par les animateurs pour être déclinées en classe. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler tellement des mallettes pédagogiques, mais de la façon dont elles ont été conçues, en revenant sur leur genèse et sur la phase d'idéation qui a présidé à cette co-construction. Ce programme, il naît au sein d'un conseil scientifique, d'un fonds de dotation, donc un organisme à but non lucratif, qui a cherché à mettre en place une action pour la prévention et l'éducation en santé des enfants sur une thématique environnementale. À l'origine, ce fonds de dotation, son conseil scientifique commande un sondage IFOP, donc avec tous les biais que ça peut comporter, mais qui en tout cas leur permet de savoir quelles sont les attentes des enfants en matière de prévention en santé. Et vous en voyez là les résultats principaux. En fait, ce que eux retiennent, c'est que les enfants citent les pollutions comme un des facteurs qui peut les rendre malades parmi les premiers résultats, et que les enfants ont envie d'apprendre des choses à faire et à ne pas faire pour rester en bonne santé. À partir de là, ils décident d'associer les enfants à la conception de ce programme. Là, on est vraiment sur la phase très initiale. Et pour cela, le conseil scientifique de ce fonds de dotation deux des médecins présents dans le conseil scientifique vont recruter une équipe. Eux, ils vont veiller au respect de la commande et ils vont coordonner toute l'équipe qui va être composée de plusieurs personnes, de plusieurs acteurs. Alors d'abord, ils vont former un binôme avec une designer en innovation sociale qui va s'occuper de penser le dispositif et de concevoir les objets, et une qualitativiste, autrement dit une sociologue indépendante, qui va elle s'occuper du recueil des représentations des enfants mais aussi des enseignants, et qui va utiliser en fait des méthodes de sciences humaines et sociales. Ensuite, l'équipe s'agrandit, ils vont recruter une ethnologue, moi-même, mais à ce moment-là, c'est dans le cadre d'une mission. Il n'est pas question de faire une thèse sur cette question-là. Ils recrutent pour eux un observateur extérieur qui va venir rendre compte de la méthode qu'ils jugent inédite et innovante qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Et ils veulent quelqu'un qui vienne faire une espèce de compte-rendu, de restitution de la méthode qu'ils appliquent. Donc, et le positionnement, c'est vraiment celui-là, c'est-à-dire c'est une observation stricte dans un premier temps, flottante, et qui va se faire de plus en plus participative dans mon cas, au fur et à mesure de mon implication dans cette recherche et dans le fait que ça va devenir en fait mon sujet de thèse. Dans l'équipe encore, une journaliste scientifique qui va avoir un rôle crucial de recueil des contenus scientifiques, de sélection de ces contenus scientifiques, ce qui posera beaucoup de questions sur la place du savoir scientifique sur ces sujets. Et ces contenus scientifiques, ils vont être vulgarisés par un auteur jeunesse qui, par ailleurs, est médecin. Et il y aura aussi un maître d'œuvre qui, lui, va s'occuper de la mise en série et de la diffusion des kits. Et ensuite, au centre ou autour de la table, en fonction des moments, des lieux de discussion, etc., on trouve les destinataires, donc les enfants, mais aussi leurs enseignants, avec leurs attentes, leurs contraintes, etc. Donc je vais revenir sur justement comment s'est passé ce recueil des représentations, en particulier des enfants. Le parti pris de ce programme est fondé sur le socle du comprendre pour agir, c'est-à-dire de donner accès à des savoirs, de mettre à disposition une pluralité de savoirs dans un esprit mutualiste qui guide ce conseil, enfin les membres du conseil scientifique qui se reconnaissent là-dedans, et qui va mettre en avant ses valeurs de capacité d'agir, d'empowerment, etc., avec un lien avec l'engagement citoyen, et qu'on retrouve dans le traitement des questions socialement vives, avec l'idée d'une certaine vision de la culture scientifique qui est soucieuse d'engendrer des effets sur la société, et de traiter des questions, c'est un positionnement autour des questions socialement vives. Pour revenir sur la définition de la co-construction, alors j'utilise le terme de co-construction, co-conception, voire co-création de façon indifférenciée. Je reprends là plutôt la définition de Madeleine Akrich qu'elle donne, elle, de la co-construction, mais on peut utiliser les termes, en tout cas sur ce terrain-là, de façon indifférenciée. Donc cette démarche de co-construction, donc, elle relève avant tout de la construction collective d'un objet autour de valeurs partagées et à travers la mise en relation de parties hétérogènes. Sa mise en œuvre dépasse l'approche participative qui se propose de joindre les publics concernés au processus décisionnel. Il s'agit d'intégrer les usagers pour en faire des acteurs à part entière du processus. Cet engagement vers un mode de participation dépasse la simple concertation et consultation, mais convie les usagers à la table, aux côtés des décideurs et financeurs, et induit l'exigence de rester fidèle à une méthodologie qui se construit en même temps que son objet. Donc ce qu'on retiendra de ça, ce sont des parties hétérogènes, qui comptent l'équipe que je vous ai présentée, les usagers, les enfants, mais aussi le financeur. On retiendra aussi le fait que les usagers sont mis au centre de la table. Et enfin, que c'est une méthode sui generis qui se construit donc autour de son objet, qui n'est pas réplicable d'un objet à un autre. Le principe de co-conception, il a été illustré comme ça, sous la forme d'un escargot. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt le centre de l'escargot, avec vraiment la phase d'idéation, mais en fait, tout le long du processus fonctionne de la même façon, avec des réunions d'équipe, des moments de réflexion, des mises en test avec des ateliers qu'on appelle de co-construction ou qui invitent les enfants ou les enseignants, un premier prototypage, une mise en test, à nouveau une réflexion, à nouveau une mise en test, un ajustement, etc. etc. Au moment de l'idéation du programme, quand le projet est lancé, Les uniques prérequis sont la population cible, c'est-à-dire les enfants, qui va se resserrer rapidement autour des 9-11 ans, et le thème, donc les pollutions, mais aussi le fonctionnement du corps. La forme et les contenus restent quant à eux totalement à définir. Et donc, on va mettre en place des ateliers exploratoires qui vont permettre d'aller recueillir les représentations des enfants sur cette thématique. Ces premiers ateliers exploratoires, ils ont regroupé 31 enfants en 4 groupes distincts, mais on peut différencier 2 groupes en région parisienne et 2 groupes en Aveyron, qui ont suivi une trame similaire dans leurs ateliers, mais pour lesquels le dispositif n'était pas tout à fait le même, parce qu'à Paris, on est dans un dispositif où les enfants sont recrutés par ce qu'on appelle la maison du test, l'atelier se passe, la designer et la qualitativiste sont avec les enfants dans la salle, mais le reste de l'équipe est derrière une vitre sans teint et observe le processus, etc. Les enfants ne connaissent pas le thème, ne se connaissent pas entre eux. Tandis qu'en Aveyron, on est dans un groupe classe où les enfants sont venus parler sur la base du volontariat du thème des pollutions, et ils se connaissent, ils sont aussi dans un lieu qui leur est familier, et l'ensemble de l'équipe se trouve dans la classe. Pour vous parler un peu de ces ateliers exploratoires, la première exploration de la notion de pollution s'est faite par association d'idées et d'images, puis par un approfondissement illustré par une carte mentale. Les enfants ont ensuite pu s'exprimer sur les mots qu'ils avaient choisis après un exercice divergent qui consistait à piocher une image qui les faisait penser à la pollution et une autre qui leur rappelait plutôt le contraire de la pollution. Ensuite, on les a amenés à placer la pollution dans divers lieux du quotidien, donc la maison, le jardin, l'école, la rue, etc., pour identifier les lieux plus proches et où se situent les polluants dans leur environnement, parce que spontanément, eux-mêmes avaient plus tendance à citer des choses liées à la pollution plus globale, en parlant des usines, de la fumée, des avions, de l'air, mais pas tellement dans leur quotidien, au sein du foyer, etc. Après d'autres activités, en fait, ces ateliers exploratoires vont permettre de toucher les enfants en s'adressant à eux de la façon qui leur soit la plus adaptée, en tout cas qui est pensée comme étant la plus adaptée, selon l'état de leur connaissance sur le sujet, mais aussi par rapport à la façon dont ils ont envie d'apprendre. Cette phase d'exploration, elle a permis de constater que pour ces enfants, plusieurs types de pollution nous entourent. Nous, on venait leur parler de la pollution et très vite, en fait, on est passé sur les pollutions. Ils ont défini plusieurs types qui vont devenir ensuite les différentes mallettes thématiques. Donc, ils citent, sans doute, le pétrole, la pollution liée au transport, les déchets, le plastique, la pollution de la mer, etc. Mais ils vont aussi parler de la pollution alimentaire, par exemple les pesticides. Ils vont parler d'une pollution qu'on va dire mentale à travers les écrans. Et en milieu rural surtout, ils vont parler de pollution lumineuse, de pollution spatiale et de pollution publicitaire. Le groupe considéré comme le moins sensibilisé par le recrutement là, en région parisienne a lui plus de mal à définir ces types de pollution. Et les enfants reprennent plus facilement fumée, pétrole et reviennent systématiquement en fait, à la pollution de l'air. Mais ce qu'on arrive à conclure un peu de ces ateliers exploratoires, c'est que la pollution, elle apparaît comme une nuisance qui agit sur l'un des sens, voire sur plusieurs, et qu'elle est perçue comme une gêne, qui a un impact sur les organes sensoriels et comme une souillure. Pour rappeler les travaux de Marie Douglas sur la pollution, mais plus la pollution religieuse à l'origine, mais bon, c'est pas inintéressant de voir ces liens avec les représentations. Donc c'est finalement cette définition qu'on va garder de la pollution, donc celle qui est donnée par les enfants, comme une gêne, une nuisance. On peut voir avec eux que la pollution est un élément qui peut nous toucher par l'air, par ce qu'on mange, ou dans la mer. Et on voit surtout qu'il en existe plusieurs types. En Aveyron, les enfants sont ceux qui ont montré un sens pratique, plus développé, un sens du concret et de l'attachement en contact avec la nature. Donc, ils s'expliquent par leur environnement quotidien où eux vont plus facilement parler des poules, du compost, des étoiles, là où les enfants à Paris citaient en fait beaucoup les embouteillages, le klaxon des voitures qui les gênent quand ils vont le matin à l'école, des choses comme ça. En Aveyron, les enfants sont montrés très marqués par les images concernant les atteintes à l'environnement et particulièrement sur les animaux. Et on relève un contact avec la nature, le vivant, mais aussi la mort. Par exemple, je peux citer quelques verbatims où certains ont dit « si ça tue les insectes, ça tue aussi notre organisme », ou encore « on est tous morts si les abeilles disparaissent, il n'y aura plus de fruits, plus de plantes ». Et de même, ils vont lier l'effort physique et le fait de faire par soi-même comme un facteur qui va minimiser la pollution. Ils vont différencier les types d'énergie avec certaines qui considèrent ne pas provoquer de pollution. Je cite encore un enfant qui dit « on produit de l'énergie, mais ça ne pollue pas ». Donc, par exemple, quand on pédale, elle est dans notre corps. Notre corps, quand il fabrique de l'énergie, il fabrique aussi un moyen de la recycler. Pour rester encore sur ce bilan, ce résultat, ces premiers résultats des recueils des représentations, donc les représentations ont été recueillies donc, par la qualitativiste, et c'est ce qui va servir à toute l'équipe à fonder leur idée de kit, qui à ce moment-là n'est pas une idée de kit, qui est juste une idée de programme de prévention très vaste sur le thème des pollutions, mais qui n'a pas vocation à devenir un kit pédagogique, pas forcément. Ce qu'on voit donc avec les enfants, c'est qu'ils disent que des choses rentrent dans le corps, certaines nous font du bien, d'autres non, et on trouve cette idée de flux qui entrent et qui sortent. Ils parlent aussi des vêtements ou de la peau, qui renvoient à l'idée de limites, de frontières, de barrières du corps, de barrières cutanées avec l'extérieur. Le corps est perçu comme une enveloppe perméable, avec la peau, le nez, la bouche, les oreilles, mais aussi le cerveau, sur laquelle les éléments extérieurs ont des effets, à travers notamment ce qu'on mange, ce qu'on entend, ce qu'on touche par exemple, donc encore quelque chose lié au sens. Les enfants vont aussi se montrer conscients que les conséquences d'un acte peuvent être différées dans le temps et dans l'espace. Par exemple, un plastique jeté là, qui va être ingéré par un animal, rentrer dans la chaîne alimentaire, et ensuite peut affecter la santé humaine à distance. Ils disent aussi qu'un impact délétère peut être invisible de prime abord. Enfin, ils sont conscients de cette invisibilité du polluant. On note aussi plutôt sur la forme, sur la façon dont ils ont envie d'apprendre, qu'ils aiment les formules choc. Par exemple, ils vont dire que les sodas, c'est du cancer à boire. On souligne leur intérêt pour l'humour, pour le fait de s'amuser. Bon, ça, c'est des choses assez évidentes. Ils disent qu'ils aiment faire des bêtises et qu'ils auraient envie d'apprendre en pouvant s'amuser, en pouvant bouger beaucoup. Mais c'est des choses que les concepteurs avaient envie d'entendre aussi, de laisser tout le champ des possibles aux enfants, qu'ils puissent s'exprimer sur la façon dont ils avaient envie de recevoir ces savoirs. Et ce qu'on apprend aussi, c'est qu'ils aiment l'humour noir et grinçant, et que par ce type d'humour, ils acceptent d'aborder des sujets sérieux. Là où parler de mort, de maladie, de choses comme ça, de sujets sérieux, de façon sérieuse, ça ne leur convient pas. Donc voilà, c'était vraiment... ça a été un trait important qui a un peu guidé ensuite l'ensemble de la conception. Ok. Ils disent aussi qu'ils aiment jouer à se faire peur et que, bon, en fait, c'est tout ça une façon de neutraliser le côté moral et très anxiogène du thème de la pollution. Ils sont aussi très attirés par le côté fascinant des super-pouvoirs que peut avoir la nature ou le corps humain, en réponse à l'idée d'une planète qui peut exploser, etc. Donc ça c'est tout le background des super-héros, etc. On voit qu'à ce moment-là, ils se montrent prêts à s'engager, comme à mobiliser leur entourage. En tout cas, c'est ce qu'en retirent les concepteurs du programme. Pour conclure, on voit ici que l'approche en question s'appuie sur des méthodes actives, et c'est ce que sera le programme à la fin, qui va impliquer l'apprenant et développer l'esprit critique. Cette méthode, elle s'emploie à favoriser l'engagement actif des apprenants dans la gestion de situations d'apprentissage et de construction des savoirs, et elle contribue à la mise en avant du travail coopératif au sein d'une même communauté. Ça passe par la recherche d'informations dans des ressources diverses, la confrontation à des ressources scientifiques avec l'explication de la démarche, la vérification de l'information à l'idée de trouver les sources, ou encore la conscientisation du caractère non figé de la notion de vérité scientifique. Les concepteurs ont voulu vraiment amener avec ce programme l'idée d'une science qui bouge, une science en mouvement, et donc de leur enseigner aussi ce qu'est la démarche scientifique. Et donc là, on rejoint encore une façon d'intégrer les questions socialement vives et de les lier aussi avec l'engagement citoyen que ça peut contenir. Cette approche, enfin, elle rejoint les principes de l'éducation relative à l'environnement, les principes développés notamment par Lucie Sauvé, autour de la relation entre personnes, société et environnement, et qui préconise une approche autour du concept de l'éco-sociosystème. Pour rappeler les finalités de l'éducation relative à l'environnement, on compte la participation à la préservation de la qualité de l'environnement dans l'épanouissement de la personne quant à sa relation à l'environnement pour garantir son bien-être mais aussi sa santé, et à partir de principes pédagogiques adaptés favorisant la pensée autonome, critique et collaborative. Et l'idée derrière ça, c'est de sortir de la pensée en silo et de jouer sur la notion d'expert. C'est de faire intervenir des experts de plusieurs compétences et en même temps de donner aux enfants, aux usagers plus largement, une qualité d'expertise également. Je vous remercie pour votre attention.
Merci. Carole Barthélémy, moi je suis sociologue au LPED, du coup je vais poser une question de sociologue, à savoir, vous avez comparé Paris et l'Aveyron, qu'est-ce qui sous-tendait l'hypothèse de la comparaison, est-ce que c'était le rural, l'urbain, et du coup est-ce qu'il n'y a pas des variables cachées dans les représentations évoquées, à savoir celle du milieu social et du lieu où les enfants grandissent, et du coup on peut débattre selon l'intérêt des parents. Enfin voilà, comment vous travaillez ce qu'on appelle nous les variables cachées. Enfin, merci.
Alors, est-ce que oui, ça fonctionne? Juste une pré-réponse, juste pour rappeler que ce programme, moi j'en fais mon sujet de recherche en anthropologie, mais les personnes, les concepteurs ne sont pas dans une démarche proprement scientifique. Ils font pas un programme, ils répondent pas à un programme de recherche. Néanmoins, ce sont des médecins, une qualitativiste, je vous l'ai dit, une designer en innovation sociale qui elle aussi était proche des méthodes de recherche. Donc ils aiment quand même réutiliser et garder l'idée d'une méthode rigoureuse, scientifique, etc. Mais quand même, quand il y a des biais, ils peuvent de toute façon les écarter comme ils veulent. Enfin, voilà, il n'y a pas de vérification. Il y avait l'idée d'avoir une caution scientifique à travers mon travail et donc mon regard, parce que moi j'étais tout le temps là. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des biais, ils peuvent être écartés comme ça. L'idée initiale, effectivement, c'était d'aller en milieu rural et en milieu urbain. Et en fait, on va retrouver ça dans tout le processus itératif, où en fait, on va aussi aller à Deauville, on va aussi aller à Nice, on va aussi aller en région autour de Lyon, pas à Lyon même, mais plutôt en périurbain, etc. Ou encore, je ne sais plus. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'essayer d'être représentatif du territoire, mais ça pose effectivement des questions, parce qu'on fait une mallette qui s'adresse aux enfants, à tous les enfants, en tout cas les enfants scolarisés et en milieu d'animation. Et bon, finalement... Oui, finalement, on retrouve les problématiques de la massification, etc. Typiquement. Mais voilà.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui, rapidement, très court. Il y avait quatre groupes, donc, d'après ce que j'ai compris. Est-ce qu'ils ont pu interagir ensemble, échanger, faire des choix ou... En fait, comment a été prise la décision de sortir tel élément au lieu d'un autre? Qui l'a fait? Enfin, est-ce que c'est une personne? Et est-ce que ça a pu, forcément, ou un groupe de personnes, j'imagine le comité de scientifiques, et ça a pu, forcément, amener des choix qui n'étaient pas du fait des enfants. Voilà. Donc, est-ce qu'ils ont communiqué entre eux, entre groupes, et ils ont fait des choix ensemble?
Oui, votre question soulève tous les problèmes de la co-construction, typiquement, enfin en tout cas les problèmes auxquels on a été confrontés ici, où effectivement, ici, quatre groupes qui n'ont eu aucun rapport entre eux, et en Aveyron, c'était deux villages distincts, donc c'était même pas des enfants d'une même école, donc aucun échange, et aussi, ils n'ont jamais été décisionnaires. C'est-à-dire qu'il y avait les tests, et ensuite la designer retravaillait ses prototypes, elle venait les présenter en équipe, donc c'est-à-dire avec les personnes que je vous ai présentées, sauf les destinataires. À un moment dans l'équipe, Il y a une enseignante un peu référente qui venait quand même souvent pour aider, enfin pour guider, selon elle, selon les contraintes de son métier et de ses collègues, certains choix. Mais c'était plutôt sur quand on avait atteint un stade vraiment lié aux questions pédagogiques. Mais en amont, on est vraiment sur le prototypage de qu'est-ce qu'on va faire de ça et de la sélection de contenu. Ben alors là, pas du tout. Ce qui pose des questions, effectivement, sur cet enjeu de co-construction où on veut dépasser la simple consultation. Mais finalement, la limite, et la limite qui la met, là aussi, il y a deux coordonnateurs qui géraient un peu l'équipe, mais après, il y a les savoirs et les compétences de chacun qui, à un moment, peuvent dire ben, « Non, sur cette question, on aurait besoin de consulter à nouveau. » Après, consulter à nouveau les enfants, ça a aussi beaucoup de questions pratiques, de mise en charge de logistique, voilà. Donc,
Une autre question.
Ok. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, c'est Krafumé, doctorant en socio-anthropologie de la santé. Et je viens de la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai peut-être trois questions. La première question, c'est d'ordre éthique. Puisque vous avez dit que c'est une vous parlez d'une co-construction, sinon d'une coopération avec les enfants dans le cadre de l'élaboration d'une politique préventive. Alors la question c'est de savoir est-ce que finalement c'est le fait de travailler avec des enfants, donc de co-construire quelque chose avec les enfants, est-ce que ça ne soulève pas des questions en termes d'éthique de coopération ou de éthique de co-construction d'une politique avec des enfants, c'est-à-dire avec des mineurs. Donc ça m'amène à poser cette question de l'éthique de la coopération. La deuxième question, ça m'amène à me poser finalement est-ce que on n'est pas ici dans une sorte de coopération ou de co-construction passive. C'est-à-dire, est-ce que les enfants, finalement, est-ce qu'il suffit-il de consulter les enfants pour que le programme soit vraiment un processus de co-construction? Donc, est-ce qu'on est là dans une co-construction passive ou une co-construction active? Et la troisième question, c'est qu'une fois que c'est dans ce processus de co-construction passive ou passive ou active, est-ce que les enfants, par exemple, dans la mise en œuvre maintenant de cette politique, à quel niveau maintenant les enfants coopèrent? Est-ce que les enfants, après la cotation, ça se limite là? Ou bien, puisque la cotation participe à la mise en risque en fait du phénomène, et comment maintenant se fait la mise à l'agenda? Est-ce que les enfants continuent toujours de coopérer ou bien ce sont les parents qui participent? Et la dernière question, c'est que vous avez parlé de représentation, parce que c'est sur les questions de vous avez dit, et on sait tous que ce sont des construits. Et finalement, la question, c'est est-ce que les enfants, tout ce que vous avez recueilli comme représentation, est-ce qu'il y a une partie d'expérience dedans où tout ce qu'ils disent, c'est uniquement sur la base de ce qui a été construit, de ce qui a été transmis par le système éducatif, c'est-à-dire ce qu'on leur a enseigné, ou est-ce qu'il y a eu une expérience, en fait, d'eux-mêmes en termes de connaissance des faits de la pollution en fait sur la santé. Voilà, merci.
Merci pour vos questions.
J'espère que c'est pas trop.
Je réfléchis pour la dernière. Alors, je vais vous répondre sur la deuxième et la troisième. Donc, une co-construction passive, point d'interrogation. Certainement. Je pense que c'est une co-construction que les concepteurs ont voulu active. Et que finalement, avec le recul, on peut se poser la question de... Parce que, comme je vous l'ai dit, les enfants n'ont jamais été décisionnaires. Et aussi parce que, et ça va répondre à votre troisième question sur « Et maintenant, qu'en est-il de la coopération ?» les enfants qui utilisent le kit, quand le kit est commandé dans une classe par exemple et qu'il est mis en œuvre dans la classe, ils ne savent pas forcément qu'il y a une histoire de co-construction derrière. L'enseignant peut le savoir si c'est renseigné sur le site, mais ce n'est pas indiqué explicitement sur les mallettes, etc. Quand ils le savent, ils trouvent ça très intéressant, en tout cas les enseignants, de dire « Ah oui, mais on le sent, qu'il y a quelque chose vraiment qui colle, voilà. » Les enfants, ça les intéresse, mais il n'y a plus de participation en tant que telle. En revanche, il était demandé par les concepteurs dans le kit d'avoir des retours. Ils voulaient aussi mettre en place un site internet, ça n'a pas pu vraiment être fait, mais avec un forum, etc., où chacun pourrait avoir un profil et venir coopérer. Parce que aussi dans le kit, il y a toujours un atelier de travaux pratiques où ils vont, par exemple, écrire un slogan de prévention ou fabriquer un objet de prévention. Et l'idée, c'est de pouvoir transmettre le message de prévention à d'autres enfants. Et donc derrière ça, il y avait l'idée aussi de transmettre plus largement et de continuer, de créer une espèce de communauté en fait. Et bon, tout ça, ça, à ce jour, ça n'a pas vraiment pris. Donc, je pense qu'il y avait une vraie volonté derrière et que des moyens ou des arguments un peu, parce que quand certains voulaient pousser la co-construction plus en avant, en disant « Mais pourquoi sur ça on ne consulte pas les enfants ? Pourquoi on ne leur fait pas faire ça ?» Il y avait toujours quelqu'un qui disait « Ben non, il y a un moment où il faut trancher, il y a un moment où il faut arrêter. » Mais ça, c'est toute la question tout le long. À quel moment on tranche ? À quel moment on arrête la boucle itérative pour dire « Ok, on arrive à un produit fini ?» La réponse un peu ambiguë qu'ils ont trouvée à ça, c'est de dire « Ben, on propose un produit et il sera mis à jour. » Mais en fait, bon... Il faudra voir avec le temps, mais il y a d'autres raisons après qui font qu'on ne met pas à jour comme ça, on ne recommence pas le processus à chaque fois. Sur la question éthique, je ferai une réponse un peu parce qu'elle n'était pas plus précise que ça. Oui, bien sûr, travailler avec des enfants pose des questions éthiques, en recherche aussi. Moi, je me suis cachée derrière le fait que je suivais cette équipe auprès des enfants et donc je n'ai pas fait, moi, les démarches... les démarches de comité d'éthique pour faire passer la recherche. Mais moi, je ne suis pas allée directement me confronter aux enfants. Eux l'ont fait. Ce qu'on a fait signer, ce sont des décharges de droit à l'image et au son, ce qui protège pour une partie, parce qu'il y avait aussi des captations sonores ou vidéo. Mais après, au-delà de ça, sur les questions de santé vraiment et d'enseignement aux enfants... Non, je crois que l'idée, c'était juste de dire pour les acteurs que c'était une bonne idée de s'adresser aux enfants, parce qu'il y a plein de bonnes raisons de s'adresser aux enfants. Mais de là à poser des questions éthiques, au-delà de ça, pas vraiment.
Merci beaucoup. C'était absolument parfait.